Est-ce que ça vous intéresse un petit conseil pour venir en France en vous faisant passer pour étudiant? Quand vous arrivez en France, légalement si possible, allez directement toquer à la porte d'une fac. Inscrivez-vous dans la filière la moins sélective, genre en gros pas des études d'architecte, et faites-vous accepter par tous les moyens. En vrai, c'est pas si compliqué, il y aura des collectifs étudiants d'extrême gauche qui seront là pour vous aider.
Allez, viens, viens, viens.
Une fois inscrit, prouvez simplement que vous avez assez d'argent pour vivre, et c'est banco, vous obtenez un titre de séjour. A partir de là, ce sont les facs qui décident si vous gardez votre titre de séjour ou pas, en jugeant votre assiduité en cours. Et par contre, je vous connais, allez au moins en cours, c'est le minimum. Voilà le parcours classique d'un sans-papier qui se sert des universités pour se faire régulariser. Est-ce que vous vous souvenez de Dabia Benkired, la meurtrière de Lola? Eh ben c'est grâce à un visa étudiant qu'elle a pu entrer légalement en France en 2016. Aujourd'hui, l'université est devenue le principal vecteur de l'immigration légale. Pourquoi? Tout simplement parce que la gestion de l'immigration étudiante a été entièrement reprise en main par les facs. Vous vous souvenez d'Edouard Philippe?
Bon, pardon.
Vous savez, cet homme d'État Premier ministre de 2017 à 2020, connu pour sa barbe poivre et sel et qui pourrait se retrouver président en 2027. Et bien, lors de son mandat de Premier ministre, Édouard Philippe a mis en place le plan Bienvenue en France. Un plan qu'il avait lancé en 2018, initié dans une logique, je cite, d'attractivité universitaire française. Bon, en gros, l'objectif c'était d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers, mais de bien les accueillir pour que ça profite un maximum aux universités françaises. Et franchement, les promesses donnaient vraiment envie. Atteindre les 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027. 500 000 bons étudiants, du coup. Augmenter les frais d'inscription pour les étudiants nés hors d'Europe. Pour que ça ramène un peu d'argent au système universitaire, on dit pas non. Avoir des étudiants venant de tous les pays du monde, comme la Chine, la Russie ou l'Inde. Pour avoir les étudiants les plus brillants venant de ces pays. Et à votre avis, est-ce que ces promesses ont été tenues? L'année de création de ce plan, une tribune a été écrite par le docteur en sociologie Hicham Jamid dans Le Monde. Dans l'article, ce dernier se plaint du penchant presque raciste du plan Bienvenue en France. Il trouve par exemple qu'augmenter les frais d'inscription, c'est excluant pour ceux qui viennent des pays pauvres. Il va même carrément jusqu'à dire « Il ne s'agira plus de Bienvenue en France, mais plutôt allez ailleurs, ne venez pas en France. » Ah là là, j'aimerais tellement discuter avec ce Hicham Jamid, parce que là on est quand même 7 ans après, de voir un peu comment la situation a évolué. J'aimerais juste avoir son avis sur ça.
Il s'agirait de grandir.
Car oui, nous sommes en 2025. Comment les choses ont-elles évolué? Alors pour le savoir, on a consulté un dossier qui est sorti en septembre 2025 et qui a été écrit par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Alors c'est une association qui étudie des chiffres sur l'immigration et qui se base sur des données officielles. D'ailleurs, on avait invité leur directeur général Nicolas Pouvremonti sur VA+. Le dossier est un peu long et ne parle que de l'immigration étudiante. Sujet qui peut sembler un peu niche, mais qui a quand même nécessité 36 pages. Et donc sur les fameuses promesses d'Edouard Philippe, qu'en est-il? Malheureusement, on n'est pas sur une situation de fou. Pour ce qui est du nombre d'étudiants, on en était à 419 695 en 2023-2024. Plutôt bon score. Mais alors pour ce qui est de l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers extra-européens, on apprend que dans le dossier, la majorité des universités françaises ne les respectent pas depuis des années. 79% quand même. Et au sujet des fameux étudiants chinois ou russes, en fait on n'en a pas tant que ça. La plupart viennent du continent africain. Par exemple, 6 étrangers sur 10 ayant obtenu un premier titre de séjour pour motif étudiant sont originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient.
Encore une promesse non tenue.
Et alors dites-vous que ces chiffres, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce dossier de l'OID. Le dossier montre à quel point l'université est devenue le principal vecteur d'immigration légale. Et même si ce dossier peut paraître un peu compliqué, on va essayer de s'y pencher, le tout avec des petites anecdotes inédites et croustillantes. Bon, dans un premier temps, essayons de nous mettre à la place d'un étranger qui veut étudier en France. Déjà, pour les étudiants venant d'Europe, par exemple, tous ces étudiants allemands et anglais qui se retrouvent à Sciences Po Paris, c'est pas trop compliqué. Dans l'Union Européenne, il y a une libre circulation des étudiants. Mais nous, on va surtout s'intéresser aux sans-papiers, car on adore la polémique. Je rigole. Sans-papiers, ça veut dire les gens qui n'ont pas de titre de séjour valide. Titre de séjour, c'est en gros un document officiel qui est donné par l'État français et qui autorise les étrangers à vivre en France. Et pourquoi pas même y travailler. Souvent, ces titres de séjour ont une durée déterminée. Par exemple, ça va durer un an et puis l'année prochaine, il va falloir se démener pour en trouver un nouveau. Et pour rappel, tout ça va concerner les étudiants extra-européens. Et en gros, on appelle ça un carte de séjour, un visa étudiant. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait obtenu Dabia Benkired, la meurtrière de Lola en 2016, pour entrer légalement en France. Mais alors comment ça se se passe pour les sans-papiers qui veulent entrer dans une université? Et ben en fait c'est simple, quand tu es une université et qu'un sans-papier s'inscrit chez toi, tu n'as pas le droit de lui exiger un titre de séjour. T'es obligé de l'accepter même s'il n'a pas de papier. Et ce, à cause d'une circulaire écrite le 15 octobre 2002 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Donc même sans papier, tu peux déposer un dossier sur Parcoursup, tu peux passer un entretien, tu peux passer des cours, etc. etc. Et même de manière générale, en France, tu peux faire plein de choses sans papier. Par exemple, le youtubeur masqué, il a quand même vécu 2 ans sans papier.
J'ai vraiment été dans l'illégalité pendant 2 ans, c'est pas une blague, ça a été une épreuve extrêmement éprouvante pour moi sur plein d'aspects.
Bon, même si ça reste très anecdotique, il arrive même que des sans-papiers utilisent des établissements pour y dormir. Et c'est apparemment le cas de l'université de Grenoble qui loge chez eux des sans-papiers.
En effet, la faculté de droit se trouve juste à côté de ce qu'on appelle le patio solidaire, qui est en fait un camp de migrants. La présence de ce camp de migrants pose une vraie question de sécurité et même d'insalubrité. Au sein même de toute l'université. En fait, ils ne veulent surtout pas qu'on dénonce leur présence, car ils sont là depuis de nombreuses années et polluent vraiment la vie des étudiants.
Une fois inscrit à la fac, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que commence la régularisation. L'étudiant sans papier peut demander un titre de séjour étudiant. Et là aussi, les universités ont quelques obligations. L'article L422.1 du CCEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule que l'étranger qui suit un enseignement en France et qui dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour étudiant. Si tu respectes 2 conditions, la préfecture est obligée de te donner un titre étudiant. Et comme le dit l'OID, c'est un droit opposable. Ça veut dire qu'en gros, l'université ne peut pas refuser ce droit à l'étudiant. Les conditions sont être inscrit dans un établissement supérieur, condition qui du coup est assez facile à respecter puisqu'il y a la circulaire du 15 octobre 2002 que j'ai évoquée juste avant. On pourrait même dire qu'il n'y a qu'une seule condition en fait. Deuxième condition, avoir assez d'argent. Le minimum, 615 € par mois. L'équivalent d'un Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais alors attention, cet article ne permet pas de donner des titres de séjour à un étudiant sans papier. Mais en 2012, notre cher ministre de l'Intérieur Manuel Valls nous a pompé une autre circulaire pour permettre aux sans-papiers d'avoir des papiers grâce aux universités. En gros, tu peux être régularisé dans 2 cas. Si tu es arrivé en France avant 16 ans et que tu y as fait ta scolarité en France, et si tu arrives à prouver qu'il faut absolument que tu continues tes études en France. Une bonne technique serait de faire des études qui ne sont possibles qu'en France. Pour rappel, le ministère qui s'occupe de l'immigration, eh ben c'est le ministère de l'Intérieur, ils vont s'occuper des conditions d'entrée et de séjour, donc ils vont se poser diverses questions, en gros, pour quelles raisons cet étranger viendrait, qui peut être là, qui sera refoulé à la frontière, est-ce qu'on ferait pas mieux d'appliquer les OQTF qui ne sont appliqués que dans 6% des cas? Non, je rigole, ça ils se la posent pas. Ils s'occuperont aussi de la délivrance des visas, la gestion des titres de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Mais dans le cas de l'immigration étudiante, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit avant, les universités sont obligées de donner des titres de séjour. Et donc à votre avis, qui gère l'immigration étudiante? Le ministère de l'Intérieur ou les facs?
Qu'est-ce que c'est l'universalité? Hein? C'est où ton grand frère va étudier?
Vous l'aurez compris, en fait, le principal problème, c'est que l'immigration étudiante, elle est gérée par les universités. En fait, le ministère de l'Intérieur, il s'occupe que de la partie administrative. Il va enregistrer les entrées sur le territoire et va délivrer les visas. Mais les universités, elles s'occupent des admissions. En fait, c'est comme si des étudiants étaient hors du contrôle migratoire classique, ça passe entre les mailles du filet. Car comme je l'ai expliqué, les facs sont soumises à un droit opposable. Parce que si l'étudiant peut subvenir à ses besoins, ça y est, il obtient sa carte de séjour. Et comme c'est une obligation, et ben en fait, c'est compliqué pour l'État d'avoir la main sur les flux migratoires. Donc en fait, ils en ont que faire de la pertinence du projet d'étude, et encore moins de l'intérêt du dossier. Tout ce qui compte, c'est que l'étudiant gagne au moins 615 € par mois. Et pour s'en rendre compte, en 2018, les préfectures n'ont refusé que 3228 demandes sur plus de 300 000 étudiants étrangers selon l'OID. Ça fait quand même très peu. Mais vous allez me dire que, bah en vrai, 615 € par mois, tout le monde ne les a pas et on peut très bien refuser quelqu'un de cette manière-là. Sauf que là, c'est pareil, c'est quand même facilement contournable. Déjà 615 €, ça correspond à seulement 44% du SMIC net en France, c'est pas non plus énorme. Et puis en fait, il s'avère que même dans la loi, il y a une exception. Si tu as réussi un concours d'entrée, tu n'as même pas besoin de prouver tes ressources. Et quand il s'agit d'aller vérifier si la condition est respectée, en fait, elle est mal contrôlée par les préfectures. Dans 45% des cas, les preuves sont juste des attestations sur honneur d'un proche, papiers qui sont presque impossibles à vérifier.
Jure-le, pourquoi tu mens ?
Un simple bout de papier avec rien écrit dessus peut te permettre d'avoir un titre de séjour. Bienvenue en France. Mais bon, reprenons le parcours d'un étudiant qui veut avoir ses papiers grâce à une fac. Comme j'ai dit avant, un titre de séjour, il est valable que pour une durée déterminée. Donc chaque année, les étudiants doivent trouver le moyen de renouveler leur titre. En théorie, ça dépend de l'assiduité de l'élève. Il faut donc qu'il soit sage. Il faut pas trop qu'il sache de cours, il faut pas trop qu'il redouble, et surtout, il faut pas qu'il triche. Mais je crois que vous commencez à comprendre que, en ce qui concerne le contrôle de l'immigration étudiante, la théorie, on s'en fiche un peu, quoi. En fait, les refus de titre, ça arrive très peu souvent. Dites-vous qu'entre 2016 et 2018, sur plus de 300 000 demandes de renouvellement, seules 600 070 ont été refusées, soit 1,7%. Là aussi, ce sont vraiment les universités qui gèrent tout. Ici, c'est encore à cause d'une autre circulaire, celle du 7 octobre 2008. Elle stipule qu'un étudiant a le droit de redoubler jusqu'à 2 fois, ce qui peut faire 5 ans juste pour une licence. En fait, de manière générale, pour se faire refuser, il faut vraiment le faire. Il faut avoir redoublé 3 fois la même année. Il faut avoir loupé les examens et les cours obligatoires et ne pas passer du coq à l'âne quand tu changes de filière. Par exemple, tu vas pas passer de l'économie aux études d'art. Donc, globalement, les bonnes notes et l'assiduité de l'élève, c'est l'université qui s'en occupe. La préfecture qui donne les titres de séjour va pas aller vérifier sur place. Donc en gros, les facs, si elles veulent, peuvent arranger les choses un peu comme elles le veulent, en essayant bien sûr d'être dans la légalité. Dans la note de l'OID, j'ai quand même appris pas mal de choses sur, en gros, le coût de l'immigration étudiante. En janvier 2025, le président de France Université, une organisation qui rassemble tous les dirigeants des universités, nous expliquait que les facs manquent clairement de moyens. Il faudrait environ 240 millions par an pour mieux gérer l'enseignement supérieur. Et puis politiquement, on a quand même des députés qui alertent sur la précarité étudiante.
Tous les étudiants en face de moi touchent moins de 973 euros. Ils vivent tous sous le seuil de pauvreté. Car, et vous le savez très bien, dans votre système, tous les étudiants sont pauvres.
Donc dans une situation assez critique, dans laquelle en 2024, 20% des étudiants sont obligés de recourir à l'aide alimentaire, est-ce que les étudiants français ne devraient pas être privilégiés? Franchement, entre nous, bon, bien sûr, c'est pas du tout le cas.
Non, putain ! Pourquoi vous avez fait ça ?
Selon l'OID, les étudiants étrangers bénéficient, tout comme les étudiants français, des choses suivantes. Cours à l'université, bourse du Crous, logement universitaire, comme les résidences du Crous, APL, et enfin, aide d'urgence. Tout ça, ça coûte beaucoup. 1,629 milliards d'euros par an. Et alors au sujet des APL, 227 millions d'euros. Les bourses données aux étudiants étrangers, 194 millions d'euros. Additionné, ça fait plus de 420 millions d'euros financés en majeure partie par nos familles françaises. Et avec tout ça, qu'en est-il du Crous? Cet organisme public qui est devenu indispensable pour les étudiants français et qui s'occupe des logements universitaires, des restos U, des aides d'urgence, etc. Et ben là aussi, pour ce qui est des logements Crous, 34% d'entre eux sont occupés par des étudiants étrangers, alors que ces derniers ne représentent que 14% des effectifs dans l'enseignement supérieur. Et bien pour se rendre compte de tout ça, on a récolté un témoignage d'un militant de la cocarde étudiante qui nous a raconté avoir tenté de loger dans une résidence du Crous.
Alors ben en fait, je suis étudiant... à Lyon, en master en sciences sociales. Cette année, je voulais prendre une nouvelle résidence étudiante. Donc, étant non boursier, j'ai dû faire la seconde vague d'inscription. Et lorsque j'ai souhaité faire cette demande, j'ai pu avoir au téléphone plusieurs conseillères du Crous qui m'ont informé que de toute manière, ça allait être impossible puisque les étrangers allaient passer devant et je n'aurais de toute manière pas de logement Crous. Alors que cette deuxième vague de candidature est faite pour les étudiants non boursiers.
Il s'est donc rabattu sur une résidence privée étudiante, donc plus chère, et voilà ce qu'il a dû endurer.
Et dans cette résidence, j'ai réussi à trouver un studio. Cependant, lorsque j'ai aménagé, je me suis rendu compte que la majorité de mes voisins n'étaient pas français, ou du moins n'étaient pas francophones, notamment beaucoup de nuisances, et notamment une nuisance assez particulière. Récemment, il y a eu quelqu'un qui est rentré par effraction, par une fenêtre du hall d'entrée, a laissé des marques de sang partout dans la cage d'escalier, des suites de ses blessures après avoir cassé la vitre du hall d'entrée, pour ensuite proférer des jurons en arabe. Il y a eu une ambiance et des moments où en fait, on se demande est-ce que ces personnes sont étudiantes? Elles sont dans des résidences étudiantes, mais est-ce qu'elles étudient vraiment? En tout cas, c'est pas le type de personnes que moi je vois à la fac. Je les vois que dans leur résidence étudiante. Ils sortent pas avec leur petit sac à dos pour aller en cours, leur sac à main. Non. Quand j'évoque cela, les personnes que j'ai en tête, ce sont des personnes qui, dans ma résidence, n'ont pas l'air d'avoir mon âge.
Et puis, dans une résidence du Crous, la cocarde m'a envoyé une photo pour savoir un peu qui y habite. Mais alors attention, comme c'est le cas de l'équipe de France, ces gens-là peuvent complètement être français. Hein.
Je dis, on a le droit de s'interroger.
Et alors dans un autre immeuble, cette fois-ci dans les Hauts-de-Seine, un témoin m'a relaté, je cite, avoir une altercation avec un résident d'origine nord-africaine qui criait fort devant des jeux vidéo jusqu'à des heures pas possibles. Apparemment, il aurait eu une embrouille physique avec lui. Et puis je t'en avais déjà un peu parlé au début de la vidéo, mais le plan Bienvenue en France avait prévu de demander plus d'argent aux étudiants étrangers qu'aux étudiants français. Ça s'appelle tout simplement les droits différenciés. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart des établissements ne respectent pas cette règle. En plus de ne pas être respectée, la mesure a beaucoup trop d'exceptions. Je vous les donne en images. Elles sont... Ouais, il y a pas mal d'exceptions, quoi. On est bien. Et voilà une liste partielle des universités qui suppriment complètement les frais différenciés. Et pour info, ils sont plus de la moitié à faire ça quand même. Et en même temps, c'est pas si étonnant, c'est un peu la mentalité de ce milieu. Par exemple, le président de Paris Panthéon-Sorbonne avait déclaré en 2019 « C'est une insulte à la déontologie et l'éthique universitaire de faire payer les étudiants étrangers ». En fait, on en arrive à un tel point que la Cour des comptes a fait un petit calcul. Si les facs respectaient ces droits différenciés, ça rapporterait 334 millions d'euros par an. Et à votre avis, combien l'État encaisse réellement ? 15 millions d'euros, soit 0,1% de tout l'argent consacré à l'enseignement. Et moi, ce qui m'amuse, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Par exemple, au Canada, les étudiants étrangers doivent payer 5 fois plus que les étudiants canadiens. Et la fameuse condition de avoir 615 euros par mois, bah en fait, au Canada, c'est 1300 euros pour une année universitaire. Il y en avait quand même des étudiants français qui se réjouissaient de faire leurs études au Canada, et malheureusement, ils n'ont pas été acceptés en 2024. Ah, franchement, les étudiants français, on a quand même beaucoup de chance. Vous vous souvenez de la loi qui oblige les universités à donner une carte de séjour aux étudiants ? Il s'avère que parfois, il y a des petits abus, quoi. Des petites dérives, des petits problèmes. Par exemple, en France, il existe des écoles fictives qui se servent de ce droit opposable pour faire venir des étrangers. C'est le cas de l'European School of Business and International Affairs, une école de commerce située au Mans et qui a dû fermer en 2023 pour escroquerie en bande organisée. On se croirait vraiment dans les quartiers nord de Marseille, quoi.
Vacances ? Plage, famille, escroquerie, chaussettes dans les sandales.
En fait, selon le procureur de la République, il s'amusait à vendre de faux documents pour faire entrer des étudiants étrangers. On a quand même 3 suspects qui ont été mis en examen pour aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée, abus de confiance, abus de biens sociaux et fraude fiscale. Rien que ça. On dirait Sarkozy, pardon, je m'excuse pour cette blague. On a par exemple le cas de cette jeune femme, originaire du Bénin, qui a obtenu un titre de séjour et qui n'a eu qu'à payer sa scolarité. Mais aussi un certain Adjao Wadad, qui est venu du même pays et qui se retrouve en galère depuis que l'école a fermé. La préfecture du département où se situe l'école a arrêté de donner des nouveaux titres de séjour aux étudiants inscrits à cette école. Ils se retrouvent donc en toute illégalité sur le territoire français. Ce qui me fait un petit peu rire, c'est que West France, ils ont écrit un article sur Adjao Wadad, et à un moment, on peut lire que les étudiants avaient prévu de porter plainte contre l'école, mais bizarrement, ils se sont rétractés. C'est vraiment étonnant qu'ils n'attaquent pas l'école qui leur a permis d'obtenir un titre de séjour.
Vous êtes viré. Donc pour votre augmentation.
Et puis il y a aussi ce moment où les universités prennent dans leur budget pour aider les étrangers. Par exemple, la Sorbonne Université avait donné plus de 600 000 euros de leur budget à des aides pour leurs élèves étrangers en 2022-2023. Mais ça c'est pour parler de tout ce qui va être institutionnel. Il y a aussi tous ces collectifs qui vont aider les sans-papiers à se faire régulariser. Le réseau Éducation Sans Frontières est un collectif qui rassemble tout un tas de militants bien organisés pour aider toujours plus d'étudiants étrangers à décrocher un titre de séjour. Et franchement, si vous voulez vous amuser, allez sur leur site, ils ont répertorié toutes les facs dans lesquelles ils sont, Paris, Montpellier, Toulouse, Marseille. Pour chaque ville, il y a un groupe Facebook pour aider les étrangers dans leur démarche administrative. Et parce que c'est super important pour nous, les Français, d'aider des immigrés. Et c'est même une obligation. En fait, en théorie, ils aident pour l'administratif. Sauf que quand on y regarde de plus près, bon, j'ai l'impression que ça ressemble plus à des conseils pour avoir des papiers en soum-soum. Sur le groupe Facebook du RESF de Paris 8, on peut y voir un petit tuto pour s'inscrire à e-candidat Paris 8 pour les étudiants étrangers. Ici, on peut lire ce qu'on conseille, choisir une filière moins sélective. Bon, en gros, ça veut dire que si l'étudiant veut aller en études d'ingénieur, qui est une filière un peu trop sélective, bon bah il vaut mieux qu'il demande une filière où il a plus de chances d'y aller. Par exemple, les langues. En dessous, on peut lire choix du niveau, choisir un niveau en dessous. Bon, en gros, si l'étudiant veut aller en licence 3e année, il vaut mieux qu'il postule pour une licence 1ère année, comme ça, pareil, il a plus de chances d'être pris.
Ooh, that's a bingo.
Bon, je crois que vous avez compris en fait la mentalité. Le but, c'est pas que l'étudiant réussisse ses études, mais qu'il soit pris à la fac et que donc en fait, il ait sa carte de séjour. Et parce que j'ai tendance à être un petit peu sadomaso, j'ai continué à scroller dans le groupe Facebook. Et je suis tombé sur une soirée organisée le 1er février 2025 pour parler régularisation des sans-papiers. La soirée s'appelle quand même la nuit des régules. Et à 21h, ils ont pu assister apparemment à un numéro de drag show. Vous avez l'image ? Des sans-papiers qui regardent un spectacle de drag show. Et puis il y avait aussi 7 artistes qui y étaient. Et à 21h30, ils ont même organisé un tirage de tombola. Et alors parmi les choses à gagner, il y a des bons d'achat pour se prendre un petit sandwich dans une boulangerie. Ou sinon, il y a des livres féministes. En vrai, en tant que sans-papiers, le choix, il est impossible. Livres féministes, sandwich... Bon, avec toutes ces infos, je n'imagine pas à quel point Hicham Jamid se réjouirait d'à quel point le plan Bienvenue en France a évolué. En fait, c'est un échec complet. L'immigration étudiante, elle est en aucun cas choisie, contrairement aux États-Unis ou l'Angleterre. Pire encore, comme ce sont les universités qui s'occupent de cette immigration, mais qu'en plus de ça, ces dernières sont gangrénées par l'extrême gauche, bah forcément, les études deviennent un énorme appel d'air pour les étrangers. Les établissements, la direction, les syndicats, les étudiants, tout ce petit monde est encore plus immigrationniste qu'Edouard Philippe, et franchement, il faut le faire. Et j'ai même oublié de vous parler de l'affaire Nour Atala, cette étudiante gazaoui antisémite qui a été logée par le directeur de Sciences Po Lille, Étienne Perra. Mais dans leur conclusion, l'OID nous rassure quand même et nous dit qu'il est possible de reprendre les choses en main, comme par exemple le fait d'enlever ce fameux droit opposable qui permet à beaucoup trop d'étrangers d'obtenir un titre de séjour. Ou encore d'obliger les universités à respecter les droits différenciés. Voilà des petites idées, vous en faites ce que vous voulez.